Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Bruno Picard. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute.
Tout le monde dit « Je respire ». Si vous lisez et relisez et réécoutez les messages de la série « Respire », vous allez vous rendre compte que cette série est faite pour ceux et celles qui veulent décider de respirer. Et que la respiration ou le fait de respirer n'est pas accidentel, respirer est un choix. Respirer est intentionnel. Ce n'est pas la faute de l'autre si je ne respire pas. Je choisis de respirer ou non. Et le proverbe 24, verset 3, est un passage clé pour nous ce matin. Il faut de la sagesse, on va lire ensemble, il faut de la sagesse pour construire une maison. On va lire ensemble à haute voix. De l'intelligence pour la rendre habitable. Il faut du savoir-faire pour en remplir les pièces d'objets agréables et précieux. La sagesse d'un homme fait sa force, l'expérience augmente son pouvoir. Et ce passage illustre tellement bien la vie de quelqu'un qui respire. Quelqu'un qui respire parfaitement et lucide. Hier après-midi, j'ai eu le privilège de faire une petite marche, avec des membres de ma famille que j'aime particulièrement. Et au bout de quelques minutes, l'un d'entre nous ne respirait plus très bien et a fait ce qu'on appelle un chapage. Traduction française pour les franco-français, une crise d'hypoglycémie. Mais pour les créoles que nous sommes, un chapage. Et on pouvait faire ce qu'on voulait, la respiration de cette précieuse personne n'était plus du tout au beau fixe. Et là, tu aurais pu lui dire tout et n'importe quoi, elle t'aurait dit oui, débrouille-toi, dis ce que tu veux, je ne suis pas bien, et bouf, allongé par terre, les jambes levées, on a dû récupérer à manger, à boire, parce que l'hypoglycémie avait raison de cette précieuse personne. Et quand tu ne respires pas, tu ne peux pas conduire ta vie avec autorité. Quand tu ne respires pas, tu ne peux pas montrer le chemin. Quand tu ne respires pas, tu ne peux pas vivre avec la joie. Quand tu ne respires pas, tu ne respires pas. Et tu es prisonnier de ce manque de respiration. Et donc, quand on voit la parole de Dieu et on voit que Christ dit dans Jean 10 que le voleur vient pour détruire, voler, massacrer, et la Bible dit « Mais je suis venu pour que les humains que nous sommes aient la vie et l'aient en abondance ». Jésus a dit « Je suis le bon berger, et le bon berger est prêt à donner sa vie pour les brebis. Je donne ma vie afin que vous ayez la vie. » Quand tu as la vie, tu respires. Ta maison est claire. Ta maison est remplie de vie. J'ai déjà vécu des moments comme ça où je vais chez des gens et on sent qu'il n'y a pas de vie. Tu vas changer de maison et il y a beaucoup de vie. Indépendamment du niveau de richesse, indépendamment du niveau financier, indépendamment du niveau scolaire, indépendamment du statut social, il y a des gens qui dégagent la vie et d'autres qui te prennent la vie. Et Dieu veut que vous et moi, nous soyons une église qui donne la vie. Romains 8, 37 nous dit « Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. » À chaque fois que je lis la parole de Dieu, je me rends compte que tous les problèmes que je rencontre sont dans ma vie, permis ou non par Dieu, voulus ou non par moi, donnés par le diable très souvent. Mais dans chaque problème, ce que Dieu veut que j'apprenne à faire, c'est respirer. Avoir ce style de vie qui dit « Quel que soit ce que la vie me donne, je choisis de respirer. » Paul était en prison et il respirait. Paul était en train de faire naufrage et il respirait. Paul était en train de prêcher l'évangile et il respirait. Paul était lapidé et il respirait. Je ne parle pas de cette respiration physique, vous comprenez? Je parle de cette respiration qui se dégage quand tu fréquentes quelqu'un qui respire, tu as envie de respirer. On a vu ensemble cette vie en quatre chapitres. Chapitre 1, je me promène, j'ai une direction, je veux aller vers le nord. Et je tombe dans un trou, on a vu ensemble, on en ressort avec plein d'égratignures. Et au bout de trois ou quatre fois, après des erreurs et des erreurs et des erreurs, je change de direction, je choisis une nouvelle direction pour ma vie. Celui qui respire est celui qui vit une vie de repentance, capable de changer la direction de sa vie et de repartir vers le top que Dieu a pour lui. En d'autres termes, ce n'est pas juste un accident, c'est un choix. On a vu ensemble une liste de 10 choix, par exemple, que nous pouvions... une liste de 10 choix que je dois faire. Je décide de ne plus jamais refaire ce qui n'a jamais fonctionné. Et on a vu ensemble, il y a des gens qui sont des professionnels de recommencer ce qui ne marche pas. Einstein a dit, la définition de la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et s'attendre à quelque chose de nouveau. C'est de la folie. Qu'est-ce que tu fais ? Un truc qui ne marche pas. Pourquoi tu continues ? Parce que c'est ce que je fais de mieux. Change ce qui ne marche pas. Ne retourne pas. On a vu ensemble quelle différence il y a entre retourner vers sa folie, retourner vers son vomi et donner une nouvelle chance à quelqu'un. Pour donner une nouvelle chance à quelqu'un, il faut que la personne, il faut qu'il y ait une nouvelle base, une nouvelle fondation, un nouveau départ. Entre-temps, tu ne peux pas dire à quelqu'un, écoute, on reprend le cas d'Harold et Stéphanie, ce couple que personne ne connaît, totalement virtuel, et on voit que Stéphanie aurait pu dire à Harold, on l'a vu vendredi soir, Harold, je vais continuer avec toi. Et le nombre de jeunes femmes qui me disent, tu sais, il fume, il boit, il me frappe, il est dans l'alcool, il ne me voit jamais. La fille me dépeint un paquet de trucs négatifs. Je dis, mais pourquoi tu ne le quittes pas? Je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas, tu es bête. Pasteur, tu es dur, je l'aime. Oui, mais non, tu ne l'aimes pas, tu es totalement côté de la plaque. Le gars ne t'aime pas, il te fait souffrir. Oui, mais je l'aime. Non, tu le mets devant le fait accompli. Tu lui poses un choix. Ou bien il devient un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, et on peut construire une vie ensemble, ou bien il fait ce qu'il veut et je cherche un homme de Dieu. Vous êtes mariés, c'est trop tard. On va en faire un homme de Dieu. Mais, écoutez bien cela, pour recommencer sur de nouvelles bases, il faut que la personne ait changé. Si la personne change, si Harold dit à Stéphanie, chérie, j'ai changé, voilà les preuves de ma repentance, voilà les fruits de ma repentance. Ça, c'est une nouvelle base pour un nouveau départ. Mais recommencer avec quelqu'un qui n'a pas changé, c'est retourner à son vomi. Vous voyez la différence ? Donc ça, c'est le premier point qu'on a vu ensemble. Deuxième chose, faire quelque chose qui me pousse à être la personne que je ne suis pas. Je décide de ne plus jamais faire des choses qui me poussent à être la personne que je ne suis pas. Troisième chose, on a vu vendredi soir, essayer de changer quelqu'un d'autre. Je décide de ne plus jamais essayer de changer l'autre. Je lui laisse la liberté, je lui offre des options, je l'inspire, je lui montre des choses, je lui parle, je l'aime, mais je ne peux pas changer l'autre. Quatrième chose, je décide de ne plus jamais croire que je peux plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Cinquièmement, je décide de ne plus jamais choisir le confort d'une décision basée sur l'instant au lieu de choisir les bénéfices sur le long terme. À vous de réfléchir à ce point-là. Je décide de ne plus jamais faire confiance à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Tu peux aimer quelqu'un sans lui faire confiance. Et tu peux faire confiance à quelqu'un sans vraiment l'aimer. Sept, je décide de ne plus jamais enlever mes yeux de la grande image. Huit, je décide de ne plus jamais négliger de travailler avec diligence sur ce qui est important. Pas toutes les choses que tu as en ce moment sont importantes. Certaines sont très importantes, d'autres ne sont pas du tout importantes. Neuvième point, je décide de ne plus jamais oublier de me demander où suis-je dans ma vie. Faire un bilan régulier. Qu'est-ce que je vis en ce moment? Où est-ce que j'en suis en ce moment? Et 10, je décide de ne plus jamais oublier que ce qui se passe en moi influe grandement sur le reste de ma vie. Et une parenthèse, vous savez qu'en ce moment, plus je découvre ça, ce que Dieu est pour toi, il le sera au travers de toi. La révélation que tu as de Dieu sera la révélation que tu partageras aux autres. Il est donc important d'être continuellement en découverte constante de qui Dieu est et de ne pas limiter Dieu à l'expérience que tu as de lui, mais de laisser Dieu être Dieu et d'apprendre toujours plus qui Dieu est. Donc ce matin, j'aimerais conclure cette série avec un principe très très simple et vous montrer que pour respirer, il faut choisir de respirer. C'est une décision et mon message ce matin s'intitule « Réveille-toi et respire ». Regarde ton voisin et dit « Réveille-toi ». Alors je vous rappelle que je suis pasteur, entre autres, Et en tant que pasteur, j'ai le privilège, souvent heureux, parfois malheureux, de rencontrer des gens qui viennent me voir et qui me partagent leur vie, et je comprends, et qui me donnent tous leurs problèmes, et je comprends. Et quand je les écoute, ils ont l'impression réellement que tout ce qu'ils vivent, ce n'est jamais de leur faute. Et qu'ils ne peuvent rien y faire, et que c'est comme ça. Et ils pensent que moi, ou même Dieu, peut faire à leur place ce qu'ils devraient faire. Alors même si Dieu nous aime, il ne peut pas prendre la décision à ma place. Même si Dieu m'aime à la folie comme ce matin, il ne peut pas prendre la décision à ta place. C'est à toi d'être saint, S-A-I-N, d'esprit, d'âme et de corps, d'avoir de l'intelligence. Steph vient nous rappeler cette puissante révélation que Dieu dit « Aime, tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée. » L'amour est aussi intelligent. Il faut savoir aimer avec intelligence. L'amour, ce n'est pas juste une émotion qui te prend. L'amour, c'est une intelligence que tu conduis vers l'autre. J'apprends à aimer et l'amour est intelligent. Et bien avec Dieu, quand tu aimes Dieu et quand tu aimes les autres, tu dois faire preuve d'intelligence. Tout le monde dit intelligence. Sans vouloir vous choquer, mais parfois j'ai l'impression que les chrétiens qui aiment Dieu, qui vont à l'église, parfois j'ai l'impression que nous avons la tendance, fâcheuse tendance, de déconnecter l'intelligence. On a un problème. Ok, oui, je veux qu'on prie, mais la vraie prière va toujours amener à réfléchir. La vraie prière va toujours t'amener à prendre des décisions. La vraie prière va toujours t'amener à changer, sinon ce n'est pas la vraie prière. Alors ce matin, dis-toi à toi-même à haute voix, dis « je vais changer ». Vous savez que tout le monde change. Vous n'êtes plus le même aujourd'hui que vous n'étiez hier déjà. Et le changement est inexorable, le changement est naturel, le changement, tout le monde change. Mais changer pour le meilleur est intentionnel. Pour devenir meilleur, il faut choisir. Pour respirer, il faut choisir. Pour que ma maison soit remplie de bien et qu'elle soit habitable, il faut choisir. Pour que ma maison sente bon, il faut choisir. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc j'ai pris une petite liste ce matin, je me suis réveillé d'une façon assez intéressante. J'ai eu un réveil de façon assez cool. Et ça m'a donné une idée pour le message de ce matin. Je me suis réveillé d'un magnifique rêve. Et dans mon rêve, je disais, mais je rêve. J'ai entendu un « oui, tu rêves ». Et quand j'ai entendu le « oui, tu rêves », je me suis réveillé. J'ai dit, c'était un rêve. Mais il y a plusieurs façons de se réveiller de son sommeil. Écoutez bien, je vais aujourd'hui essayer de vous montrer que ne pas respirer, c'est comme être en sommeil spirituel. Rien ne se passe. Respirer, c'est quand tu es réveillé, alerte, efficace, attentif, tu vois les choses, tu prends une décision, tu sais ce que tu veux. Premièrement, plusieurs façons de se réveiller. Premièrement, tu as assez dormi et tu te réveilles naturellement. Tu te lèves le matin, tes yeux sont ouverts, tu fais « Ah, tu as envie de vivre ça ?»« Ok, personne ne se réveille naturellement, ça fait peur. » Deux, tu as lu quelque part, tu as appris que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'il y a une mission à accomplir et donc c'est ta mission qui te réveille, tu te lèves parce que tu sais que se réveiller à une bonne heure et avoir un bon style de vie, c'est sain pour la santé, donc tu te lèves, tu as envie de te lever. Trois, quelqu'un à tes côtés se réveille et involontairement ou pas, te réveille en même temps. Quatre, quelqu'un te réveille volontairement parce qu'il veut que tu sois ailleurs. Ça vous arrive ça? Ta maman, lève-toi, il y a l'école. Maman, on est dimanche. Il y a l'école du dimanche. Cinq, ta maison est en feu. Donc tu te réveilles. Et six, ton enfant pleure. Donc tu te réveilles. J'espère. Plusieurs façons de se réveiller. Plusieurs façons. Écoutez bien cela. Prendre la décision de respirer, c'est décider de se réveiller. Nombreux sont les chrétiens qui acceptent le statu quo. Torpeur spirituelle. ou les mêmes habitudes, ou un manque de liberté, ou un problème quelconque. Dieu a fait de nous des conquérants. Un conquérant est quelqu'un qui change la destinée d'une vie, d'une famille et d'une nation. Éphésiens 5, verset 11 nous dit « Les actions qui appartiennent à la nuit ne produisent rien de bon. N'y participez pas, au contraire, dénoncez-les. Oui, ce que les gens font en cachette, on a honte d'en parler. Pourtant, quand on dénonce ce qu'ils font, leurs actions apparaissent en pleine lumière. En effet, ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit « Réveille-toi, toi qui dors. Lève-toi du milieu des morts et Christ t'éclairera de sa lumière. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. » Et Dieu dit ici, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas stupides. Oh, mais je suis vexé. Pasteur dit que j'étais stupide, ben ouais. Mais comprends la volonté du Seigneur. Ce passage nous parle de. Ça reflète bien les quatre chapitres là. Tu sais, tu vis dans un style de vie et tu te repens. C'est exactement ce que Paul dit. Paul dit avant, là, la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'avant, tu vivais dans un style de vie. Les actions, au verset 11, tes actions de la nuit ne produisent rien de bon. Il faut arriver à un stade dans ta vie où tu comprennes que faire les choses qui ne sont pas de Dieu ne produit rien de bon. Tu as beau faire plein de choses, si elles ne donnent pas gloire à Dieu, tu vas avoir échec et douleur et problème toute ta vie. C'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, Dieu t'aime, mais tes actions, tes semences font que tu vas goûter. Du verbe goûterer. Lorsque nous repensons à cette série, j'espère que vous allez la réécouter, vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai essayé de faire est de vous amener à penser en termes d'habitude, de tendance, d'action, de sagesse, de façon de faire les choses. Je crois que le Saint-Esprit est tellement magnifique qu'on ne peut pas le réduire en disant « Saint-Esprit, j'ai prié, on verra ». Non, non, Dieu veut et peut et va agir miraculeusement parlant, mais rien n'enlève la sagesse. On vient me voir, mon pasteur Bruno, prie pour un miracle financier. Ok, pas de problème. Quel est le problème? Ben, je dépense plus que ce que je gagne. Je ne prie pas pour ça. Tu veux que je prie pour un miracle, mais ça fait des mois que tu dépenses plus que tu gagnes. Tu as des dettes à cause d'un acte. Change ta façon de dépenser et tu auras un miracle tout seul. Tu seras le sens du miracle. Oui, pasteur, prie pour moi parce que mon petit copain est pas cool avec moi. Mais tu restes avec lui? Oui, je l'aime. Ben, je débrouille ton carry. Non, je suis sérieux là, on vous aime trop pour ça. Ou bien il veut changer pour Dieu et tu veux changer pour Dieu et vous serez heureux. Parce que ce que j'ai vu trop longtemps, c'est qu'on veut rester avec la personne, elle ne veut pas changer, elle ne veut pas Dieu, elle refuse Dieu. Mais pasteur, Dieu m'a appelé à l'amener à Jésus. Tu as 69 ans, ça fait 50 ans que tu fais le coup. Ah ouais, c'est vrai, ça passe vite le temps. Ouais, ça passe... Normalement, on est venu me voir, on me dit, pasteur, tu crois que vraiment, tu penses vraiment que Dieu est contre le fait que je couche avec mon petit copain parce que je l'aime? Allô? Oui, il est contre ce que tu fais. Il t'aime. Ah bon, c'est une surprise pour moi. Tiens, voilà la Bible. Prends ça, lis ça. Je veux dire que tu respires pas, c'est pas de ma faute. C'est pas celle de Dieu, c'est que tu fais un choix qui ne correspond pas à ce que je veux que tu fasses. Tes actes ne sont pas la lumière de Dieu. Tu fais des choses, des œuvres de la nuit, et tu te dis, mince, ça marche pas, c'est normal. Et c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu fais le mal, c'est que tu peux faire le bien. C'est libérateur ce que je partage ce matin. Tu peux faire le bien. Tu dois faire le bien. Je dois faire le bien. Paul dit ensuite, il dit, on a honte d'en parler, mais quand tu en parles, quand tu l'exposes, quand tu dénonces, ça devient lumière. Fais la lumière dans ta vie et tu commenceras à respirer. Tu veux que Christ éclaire, tu veux respirer avec lui, fais la lumière, accepte que ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, le mal c'est mal, le bien c'est bien, on fonce, on y va, on prend la main pour Jésus, on sauve notre famille, on sauve notre nation, et gloire à Dieu. Mais non, dans l'église, tu sais, tu comprends, l'église, tu vois, Dieu aime, ouais, Dieu aime, mais Dieu est parfaitement juste, mes amis. Réveille-toi et respire pour Jésus. On veut influencer une église, on veut influencer une nation. Tu veux influencer tes enfants? Respire. Tu veux que ton enfant te respecte? Respecte ta femme. Tu veux que ton enfant ne manque pas de respect? Respecte ton mari. Parce qu'un enfant ne peut pas forcément toujours tout écouter, mais il va tout imiter. Un enfant est une éponge. L'atmosphère que tu dégages, l'enfant va le capter. Mais si tu respires, tu es en joie, tu es heureux malgré les problèmes, et que ton enfant entende que tu te tournes vers Dieu quand il y a un problème, ta femme t'énerve, tu fais « Regebrancho cordia sante que » Alléluia. Le faire, tu bouges encore? T'as deux options. Et je suis loin d'être parfait. Le Dieu est top là-dessus. Moi, je suis loin. Mais on peut grandir. J'ai fait des efforts énormes en voiture. Énorme. Je suis tellement heureux. J'ai dit, Seigneur, je suis un homme nouveau. C'est combien est-ce que les gens de la Réunion m'énervent quand ils conduisent? Reque bientôt, Coria Chanta. Et quand tu oses dire quelque chose, c'est eux qui s'énervent. Le gars te fait une queue de poisson, roule en taré, te dépasse dans la ville, tu klaxonnes, tu fais des gestes cosmopolitains. J'invente un autre, tu fais Alléluia! Il t'entend pas, il râle le frein à main, il s'arrête, tu cherches ton gros de coup là. Et là, tous tes neurones disparaissent, ton corps, tu te prends pour Hulk. Il y a Dieu qui parle d'une voix féminine. Chérie, arrête. Et ton oreille est bouchée, t'entends pas ce qui se passe. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si depuis le départ, tu décides de rester calme, quand je prends la voiture, souvent je dis, Seigneur, je t'en supplie, quel que soit le fou du volant que je croiserai aujourd'hui, j'en croiserai, c'est sûr, Seigneur, garde-moi dans le calme. Je me louange à fond. C'est plus dur quand quelqu'un te fait une queue de poisson et tu chantes « Alléluia à l'agneau, Jésus est vivant ». Et tu chantes ça et un gars, tu oublies. Mon point est le suivant, tu veux respirer? Est-ce que tu veux respirer? Eh bien, décide. Expose le mal en ta vie. Va voir un frère ou une sœur. Partage ton cœur. Dis, ça va pas. Mon couple a un problème. Mon mari a un problème. Comme mon ami suédois qui ne va pas me dire, mon couple a un problème. Ce problème, c'est ma femme. Il me dit ça. Je dis, écoute, tu vas avoir des torts. J'ai pas de torts. Écoute, t'as forcément des torts. Non, je suis parfait. Là, il y a un problème. Dès l'instant où tu fais la lumière, la Bible dit « Christ t'éclaire ». Ça parle de cette vie où tu respires. Alors je vais juste essayer de vous expliquer quelques points assez intéressants. Comment est-ce que tu te réveilles? Revenons à ma petite liste tout à l'heure, ma petite liste, vous savez, où j'ai dit différentes façons de se réveiller. Premièrement, j'avais dit « Tu as assez dormi ». Et tu te réveilles naturellement. Cela exprime ce genre de chrétien qui dit, tu sais quoi, ma saison est terminée, je sens que ça m'amène nulle part, je suis fatigué de cette saison-là. Il n'y a pas forcément un truc de grave, mais tu te dis, ça m'amène nulle part, je ferme la porte, je passe à autre chose. Tu te réveilles d'une torpeur, d'un moment de ta vie où il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de zèle, il n'y a rien. Oh ben, ferme la porte, commence à autre chose. Ça peut être dans un boulot, ça peut être dans un lieu géographique, c'est pas ce que tu veux. Tu sens que c'est la fin de saison, tu respires plus là, c'est bon, là va où tu respires. Proverbe 1, verset 20 nous dit « La sagesse va dans les rues pour crier, sur les places publiques, elle parle à haute voix. » Proverbe 2, 6 nous dit « Oui, c'est le Seigneur qui donne la sagesse, la science et l'intelligence viennent de lui. » C'est ce genre de saison-là où tu as appris des choses, tu deviens mature, tu te dis « Ok, j'ai 18 ans, ou non, j'ai 35 ans, je quitte maman. » Avant, c'est mieux. J'ai encouragé les parents vendredi soir, je le répète, beaucoup d'amour. Si votre enfant a 42 ans, il est temps de le mettre dehors. Surtout si c'est un mal. Ce sera un mal pour un bien. Il faut penser à cela. Il faut aider les jeunes à devenir matures. Il y a des saisons où tu ne respires plus parce que ton fils prend toute ton énergie. Il a 42 ans, le gars. Et il reste chez maman parce que maman fait à manger, fait le didine, lave le linge, fait le repassage. Mais Elodie, mes filles ont 6 ans, 11 ans, elle leur dit, vous faites votre chambre, vous rangez ça, vous rangez ci. Et mon petit garçon sera pareil, mon garçon a 2 mois, fait ça tout, déjà, 2 mois, fait tout. Alors il y a une saison où tu as assez dormi, tu te réveilles. Tu dis, mince, mais j'ai 30 ans, j'ai encore rien fait. Bonne remarque. Bouge. mince, mais j'ai 45 ans et j'ai encore rien fait. Bonne remarque, bouge. Deuxième façon de se réveiller. Quelqu'un à tes côtés se réveille. Et en se réveillant, sans faire exprès, bouge sur le lit comme ça, fais du café, frappe la porte, prends la clé et te réveille. Ça illustre ce genre de chrétien qui... Vous fréquentez quelqu'un qui s'est réveillé et vous le regardez vivre, vous dites « Waouh !» Purée, depuis qu'elle le dit, elle vient extravagante, c'est une nouvelle femme. Je ne sais pas ce qu'elle vit là-bas, mais il y a un truc qui se passe, un truc de fou. C'est quoi ces gens-là? Je vais aller voir. Elle le dit, tu m'emmènes voir qui t'a réveillé? Et là, elle débarque à l'église, et la présence de Dieu, le peuple qui adore, l'amour des frères, l'accueil des sœurs, c'est génial, une belle ambiance de famille, on s'aime, on se pardonne, on se claque et on s'aime encore après. Mais il y a une vérité qui se dégage, il y a la parole de Dieu. Waouh! Quelqu'un se réveille à tes côtés et il te réveille. Vous avez vécu ça? Le réveil de quelqu'un t'a réveillé. Moi, dans ma vie, j'ai vécu ça plusieurs fois. Quand je vais dans une église dans le monde et je vais apprendre de quelqu'un comme dernièrement à Willow, à Chicago, le pasteur Bill Hybels a réveillé en moi des coins de ma vie endormis. Le fait de l'entendre, de le voir agir avec son équipe, de voir comment il gère une église de 26 000 membres, 450 personnes à plein temps. Je regarde le gars, je sais comment il fait, pas de stress. Il a un voilier et lui, il aime aller sur son voilier pour se reposer. Le gars a une église de 25 000 membres, il est moins débordé que vous. Parce qu'il a appris la puissance de l'organisation. Ok, bon. Alors, lui, il s'est réveillé et il m'a réveillé. Regarde, il dit, je vais te réveiller. Et l'autre de répondre, moi aussi. Écoutez bien cela. Proverbe 27, 6. Les reproches d'un ami montrent son affection. Mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Tu peux avoir des gens que tu fréquentes qui ne sont pas tes vrais amis parce qu'ils ne font rien pour te réveiller. Un véritable ami est quelqu'un qui va toujours te réveiller de plus en plus et être proche de Dieu et faire son plan. Tu veux savoir c'est quoi un vrai ami? Un vrai ami va toujours t'attirer dans le plan parfait de Dieu. Donc il se réveille et il te réveille. Troisièmement, quelqu'un te réveille parce qu'il veut que tu sois ailleurs. Juste avant, on a vu quelqu'un se réveiller, mais celui qui s'est réveillé ne se rend pas compte qu'il t'a réveillé. Dans ce cas précis, celui qui te réveille veut te réveiller parce qu'il veut que tu sois ailleurs. C'est-à-dire qu'il vient et il dit, tu sais, Dieu a changé ma vie. Il a fait cela pour moi. Depuis que je fais ça, par exemple, moi, j'ai été un avocat, je pense, je suis encore, j'essaye. J'étais un avocat du sport. Moins de porc, plus de sport. J'étais un avocat parce que quand je suis arrivé à La Réunion, en 2011, je suis allé faire du vélo avec mon ami Luc Dumont. Au bout de 6 minutes, je me suis arrêté sur le bas-côté et j'ai planté un arbre. Pour être classe. J'ai planté un arbre et Luc était en train de rire. Il a dit, mais Bruno, c'est pas possible. On a fait 6 minutes, 200 mètres de côte. Il a ri. Il y a un principe de leadership ici. Il se marre. Il dit, ne jamais emmener un débutant devant une côte. Et là, moi, mon orgueil de mal était touché. J'ai quitté Jean-Luc et Luc. J'ai pris ma bicyclette et j'ai marché. De retour chez Jean-Luc, j'ai déposé le vélo, j'ai pris une douche pour enlever la semence de l'arbre. J'ai dormi pendant 2 heures. Au réveil, je me suis dit, plus jamais, j'aurai la honte devant tout le monde. J'ai dit, Seigneur, il faut que tu me parles, il faut que tu me dises ce qu'il faut que je fasse, il faut que j'arrive à comprendre, je veux faire du sport, Seigneur. Et je m'attendais à ce que Dieu me dise, fais de la muscu. Et à l'époque, je pesais 49,5 kg. 100 pièces dans mes poches. Et j'étais vraiment, vraiment, vraiment proche d'un niveau de vie médiocre. Non, c'était à fond dedans. 49,5 kg. Et là, j'ai dit, Seigneur, parle-moi. Il me dit, cours, je vais te connecter au monde. Cours, et toi et l'église, vous serez connectés au monde. Et tout le monde connaît l'histoire. Je me suis mis à courir, j'ai fait une course ou deux. La télévision est venue nous filmer, France 2, Faut pas rêver, a fait une émission sur nous. J'ai pris 10 kilos pour l'instant, j'ai encore 5 ou 6 à prendre. Si j'en avais trop, vous m'enfilez. Et j'ai commencé à prier, et ma vie maintenant, et je suis en bonne santé, je me réveille le matin, je gambade dans la nature. Mais on a dû me réveiller pour m'emmener ailleurs. Et quand j'ai compris ça, je me suis juré, j'ai dit, Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Et j'ai essayé de motiver le maximum de gens à reprendre le sport. Je suis réveillé, j'ai voulu réveiller les autres pour qu'ils soient à un autre moment de leur vie. Ne reste pas l'eau tuée, reste pas assis sur une chaise. C'est pas en regard. Un ami m'a dit, Bruno, il s'appelle Mark Rogers. Il dit, Bruno, je me suis fait une déchirure au rugby. Je dis, ah ouais? Il me dit, ouais, quand l'équipe a marqué en face, je me suis levé pour sauter et dire Alléluia comme ça, j'ai fait une déchirure. Le gars s'est fait une déchirure en sautant quand l'équipe a marqué. Il jouait pas le mec devant la télévision. Il a fait, waouh, ah, déchirure. Il m'a dit, je me suis fait une déchirure au rugby. Mark Rogers, on l'aime très fort. Mais franchement, combien de gens vous faites des déchirures en regardant les autres? Il y a un mot qui m'a dit l'autre jour, il me va courir, il me dit, j'ai mal en te regardant. Je dis, ben commence pas maintenant. Quand tu te réveilles et que tu vois que c'est bien pour toi, tu as envie de le partager aux autres. Là, l'une des raisons pour laquelle les églises en France n'ont pas envie de partager aux autres, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à être bénis par ce qu'ils font. Culpabilité, manque de tu es comme ça, tu es comme si, manque de liberté, on a peur de faire ce qu'on fait, on a honte. Et si par malheur tu chantes bien, on te dit garde ton cœur pur, t'as honte, t'as l'orgueil. D'accord. Tu chantes, tout le monde est béni. Tu chantes bien. Non, c'est pas vrai, je chante pas bien, je suis nul moi, je suis nul, je suis humble. Mais si l'Église respire, elle célèbre les victoires des uns et des autres. Elle a envie de partager ce que Dieu fait parmi nous. Et une parenthèse, ça va choquer un paquet de gars, c'est pas grave. Si tu fréquentes des chrétiens qui sont dans des églises qui les étouffent, invite-les à fréquenter une église qui respire. Pas forcément extravagance, j'espère, il y en a plein d'autres. Parce que tu es censé, je suis censé, encourager nos frères à respirer. Et la seule façon d'encourager nos frères à respirer, c'est que nous-mêmes nous puissions respirer. Pas être parfait. On ne peut pas être parfait. Mais respirer, aimer la vie. Je me réveille parce que quelqu'un est venu me réveiller parce qu'il voulait que je sois ailleurs. Troisième point qu'on a vu ensemble rapidement, c'est ta maison est en feu. Donc tu te réveilles. Les gars, pas besoin de faire une grande leçon de morale. Si ta maison est en feu, j'espère que tu te réveilles. Ça parle de cette crise là, t'es une crise, t'es en pleine crise, t'as un gros problème, t'as un problème grave. Réveille-toi avant que toute ta maison soit totalement consumée par le feu. Et enfin, dernier point, ton enfant pleure, crie au secours, j'ai faim. Si tu ne te réveilles pas la nuit pour ça, t'as un problème. Tu te réveilles parce que ton enfant crie. Cela me parle de ce moment où tu comprends que tes actions ont fait mal aux autres. Les gens disent, tu sais, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Chacun fait ce qui lui plaît. Et on importe ça dans l'église et on confond liberté et anarchie ou liberté et être libéral. La liberté, c'est la puissance que Dieu te donne pour faire le bien. Quand tu n'es pas libre, c'est parce que tu es incapable de faire le bien. Quand Dieu te libère, c'est qu'il te rend capable de faire le bien, et que le bien. Parce que dès l'instant où ta liberté fait le mal, tu es à nouveau en prison. La seule façon de rester libre, c'est d'utiliser la liberté pour faire le bien. Ok ? Donc, ce matin, la série se termine, on se dit ensemble, voilà, j'ai écouté plein de choses dans cette série-là, j'espère que vous avez écouté, pris des notes. Il y a plein de paramètres à voir. La série sera vendue par pack. Je crois qu'il y a un truc comme 10 ou 11 messages. Réécoutez les messages, prenez tout ce que vous voulez apprendre, mais respirons ensemble. Laissons nos enfants respirer, laissons nos épouses respirer. Je me rappelle d'un moment où j'étais tellement côté de la plaque, ma pauvre chérie, elle a souffert avec moi. C'est le passé, tant mieux, hein, mais juste une image qui me revient qui illustre bien le manque de respiration. J'étais tellement jaloux, avec un grand J et un grand X à la fin. Jaloux. Et quand elle dit aller faire du sport, elle avait un genre de, tu sais, pantalon seconde peau, là, collante. Je voulais pas qu'elle y aille. Non, les gars vont te regarder. Et toi, tu montes ton corps aux gars. Psst. Espèce de femme pécheresse. C'est à cause de toi, Ève, qu'on est tous dans la galère. Je me suis rendu compte qu'en fait, un homme, que la femme soit habillée ou pas, le gars peut pécher. Les gens me disent, tu sais, le premier regard, c'est pas un péché, le deuxième regard, c'est un péché. Mon ami, si ton premier regard dure une heure, c'est un péché. Et Elodie a commencé à être étouffée. Étouffée. Incapable de vivre. Peur de dire un truc. Et quand elle me disait une chose, je me vexais. Ouais, n'importe quoi, je suis l'homme de la maison, c'est moi le chef. Bon, c'est pas comme ça, hein, mais... Presque. Mais j'ai tout fait ma femme. L'équipe de louanges, on rigolait hier. À une époque, Karine, tout ça, l'équipe de louanges, les gars avec moi, c'était la fin du monde. Je veux dire, j'exigeais que tous les samedis soirs, ils prient, pas de télévision, rien, ils prient le samedi soir pour être prêts le dimanche matin. Tout le monde arrivait comme ça. Je vais louer Dieu. Je vais louer Dieu, faut pas que je performe. L'onction est sur moi, l'onction est pas sur moi. Elle est où l'onction, là? Rigole, lui, parce que lui, nouvelle génération, ils arrivent, ils débarquent, ils font la fête, mais j'étais comme ça. Combien d'entre vous avez connu cette saison de vie d'église où tout était comme ça, il fallait faire ça, sinon vous étiez en enfer? Qui a connu ça? Ce genre d'église où si tu fais pas ça, excommunié. Non, on revient, il y a la dîme. Mais si je ne respire pas, autour de moi, ils vont de moins en moins respirer ou ils vont partir. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, je peux choisir de respirer. Je peux décider de dire, ok, je vais décider de laisser les gens libres, de les laisser respirer, de les laisser vivre. Bien sûr, la Bible veut que je leur donne des conseils. S'il y a un problème, je vais les voir. On a vu tout à l'heure les reproches d'un ami. Je vais leur parler, dire ce que je ressens, ce que je pense. Je vais les aider, mais je ne vais pas choisir à leur place. Je vais respirer, je vais prendre la vie à bras le corps, à plein poumon. Je vais respirer. Faites du sport. Écoutez de la musique. Nana Mouskouri, Gilbert Montagnier, tous ces gars-là, allez-y, quoi. Faites des choses, allez en vacances, mais vendez une voiture. Je vais être franc avec vous. Je suis pas en train de vous dire ce qu'il faut faire quand je vous inspire. Vendez une voiture s'il le faut et allez en vacances une fois. Prenez une maison plus petite et allez en vacances deux fois. Vous allez vous rendre compte que personne ne pourra vous voler les moments de vie. Personne. Quand on vient ici le dimanche matin ou le vendredi soir, allons créer de la vie. Quand Philippe fait « Louons Dieu !» Pas la peine qu'il fasse, avant qu'il fasse « Louons !» Tu fais « Ouais, on sait, on va louer Dieu, mec !» Tu te lèves le matin, fais ton café pour ta femme, pas que le dimanche. Il est où, Charles? Fais le bien tous les jours. Et je vous promets que ça marche. Il y a 6 ans en arrière, 5 ans en arrière, je peux très bien, 7 ans, mon couple était mal parti. Si, bien parti pour le mur. On a dû tout changer, on a dû réfléchir, on a dû, surtout moi, remettre tout à plat. 2 ans et demi à travailler sur mon cœur en priorité. Ma femme s'appelle Elodie, son nom signifie « fleur fragile ». Et moi, je m'appelle Brian, in the kitchen. Je m'appelle Bruno et mon nom signifie bouclier. Et un jour que je priais, Dieu me dit, tu n'as pas joué ton rôle pour ta femme. Tu n'as pas été son bouclier. Préserve sa fragilité. Laisse-la être ce qu'elle est. Le pasteur Marc est venu me dire la même chose avec un autre langage. Il m'a dit, ne réveille surtout pas la tigresse qui dort en elle. Je lui ai dit, trop tard. Mon point est le suivant. Il y a-t-il dans ta vie ce matin des choses que tu fais et tu sais qu'il faut arrêter? Il y a-t-il dans ta vie des choses que tu sais que tu devrais faire, mais tu as remis à demain? Et chaque fois que demain arrive, ou qu'aujourd'hui arrive, tu dis demain je vais le faire. Procrastination. Remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et tu sais que ta famille a besoin de toi, tu sais que tes enfants ont besoin de toi, et tu sais. Et tu te laisses emporter par des habitudes. Non, arrête tout ça, mets pause, prends une feuille blanche, réécris ton planning, va voir ton épouse, va voir ta femme, passe du temps avec eux, parce que les jours passent trop vite. Un de mes amis est mort cette année, il y a environ un mois. Un leader influent dans le monde de Christ. Ses dernières paroles à sa femme ont été « Chérie, on se voit pour le petit-déj, réveille les enfants, aujourd'hui je les emmène à la plage. » Il prend sa moto, il va faire une balade. Un gars ivre le tue. Ça casse peut-être de morale. Mais c'est important de comprendre que ce genre de message-là n'a pas d'impact. Si on ne prend pas une décision profonde dans ton cœur de dire « Je vais respirer. Mes enfants ont besoin que je respire. Ma femme a besoin que je respire et ma femme a besoin que je la laisse respirer. » Laisse-la vivre. Laisse-le vivre. Je ne parle pas de choses qui font mal. Si ton mari te dit « J'ai besoin d'un joint pour vivre », ne laisse pas vivre. Un gars me dit d'un moment, c'est en vrai, il me dit « Mais moi, le Zamal, pour moi, c'est pas un problème. C'est la culture de la Réunion. » Ouais. Laisse-les vivre. Ton enfant aime mettre des baskets avec un short, avec une chemise, avec une casquette, avec un foulard, avec deux montres. Il est américain. Mais laisse-le vivre. Tes enfants aiment marcher pieds nus. Ils sont sud-africains. Laisse-le vivre. Bien sûr, si sa liberté empiète sur l'autre, sa liberté détruit, on l'a vu ce matin, sa liberté empêche de vivre, il faut recadrer. Mais combien de fois on tue nos relations parce qu'on contrôle, parce qu'on ne respire pas? Je veux, en tant que pasteur, que vous puissiez respirer. J'aimerais vous dire ce matin de tout mon cœur, je veux le dire avec toutes mes forces, sans pleurer pour rien. Je veux vieillir avec vous. Je veux vraiment vieillir avec vous. Je veux que dans 20 ans, 40 ans, 50 ans, 80 ans, Henri-Paul et moi, on vous regarde, on dit. Yeah. Henri-Paul me dit, t'as vu l'église là? T'as vu ces milliers de gens partout en France qui connaissent Jésus-Christ? Parce que nous tous, on a tenu ensemble, on a célébré le roi. Je veux voir les enfants de mes enfants. Sauf si Jésus revient avant. Une parenthèse, s'il vous plaît. Arrêtez de prier pour que Jésus revienne vite. C'est totalement égoïste. Priez pour que Jésus vous donne la puissance de gagner tous vos amis avant qu'il arrive. Parce que la seule personne que tu ne verras plus jamais au ciel sont tes amis non chrétiens. Alors laisse Jésus décider avec le Père quand c'est qu'il revient. Dis pas « Jésus, reviens !» Miguel Pu. C'est égocentrique. Dis « Jésus, attends. » Traduction « Espère !» Je veux gagner mon mari. Je veux gagner mon épouse. Amen.